Roberts Livre, Hélène Nichters.
Le prix de l'essence augmente dramatiquement, vos projets de vacances se réduisent comme peau de chagrin. Et si se dépayser se faisait en partie cette année par la lecture ? Ça tombe bien, un atlas touristique fabuleux et chimérique vous emmène dans des mondes inconnus et bariolés. Un véritable voyage fantastique. Bonjour Jérémy Gindre.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Quartz, nous vous accueillons pour évoquer votre dernier ouvrage, Atlas touristique des pyramides de la Pampa, un superbe livre écrit et illustré par vos soins qui vient de paraître chez Art et Fiction. Nous allons parler de ce qu'il y a dedans, mais nous allons surtout évoquer le contexte de sa création. Un atlas chimérique donc, sorte de patchwork qui a surgi d'un mois que vous avez passé au printemps 2021 pendant le semi-confinement au cœur de la bibliothèque de Genève dont les portes vous ont été gracieusement ouvertes. Vous avez alors effectué un voyage stationnaire, Jérémy Gindre.
Oui, c'est ça. C'était donc en effet pendant la période de confinement pendant laquelle j'ai profité d'une résidence artistique que j'ai obtenue à la bibliothèque de Genève pour explorer en particulier le fond cartographique, les plans, les panoramas, les guides de voyage et toutes sortes de choses se rapportant justement au voyage qu'on ne pouvait plus pratiquer à cette époque.
Mmh. Alors dites-moi, ça vous a été imposé ce secteur-là ou vous aviez le choix avec d'autres secteurs de la bibliothèque de Genève ?
Non, alors j'aurais eu le choix entre d'autres institutions puisqu'à l'époque la ville de Genève avait incité les institutions culturelles à proposer des résidences de recherche pour les artistes. Moi, j'ai postulé à la bibliothèque de Genève parce que j'avais eu vent de ce fond cartographique assez conséquent et particulier hérité d'Élisée Reclus et Charles Perron. Et donc, c'est aussi en règle générale mon domaine de prédilection, la cartographie, le rapport au paysage, au territoire, c'est un projet dans cet ordre-là que j'ai proposé.
Vous parlez d'Élisée Reclus et Charles Perron. Ne pas confondre avec Charles Perrault. Qu'est-ce qu'il représente dans l'histoire de la géographie ?
Alors, Élisée Reclus, c'est une figure majeure de la géographie humaine et physique, anarchiste aussi. Et donc, il était en exil en Suisse pendant la Commune. Et autour des années 1890, avec son ami, le dessinateur et cartographe Charles Perron, ils se sont lancés dans ce projet complètement fou d'écrire le monde entier. Dans les 18, je crois, tomes de ce qu'allait devenir la nouvelle géographie universelle. Et donc, ils se sont fait envoyer des cartes du monde entier. Et d'après les voyages d'Élisée Reclus, mais aussi des descriptions qu'il a récoltées et qui s'est fait parvenir ici en Suisse, ils se sont mis à décrire non seulement tous les lieux de tous les continents, mais aussi les peuples qui les habitaient.
Donc, on peut considérer qu'il y a un avant et un après Élisée Reclus en matière de géographie ?
Alors, pour moi, en tout cas, oui, puisque c'est ce qui a donné naissance à cet atlas.
Et il fallait qu'il y ait une dimension illustrative qui soit importante, parce que, il faut peut-être le dire, vous êtes auteur, on vous connaît pour vos romans, notamment Le Dernier Tombola en 2023, mais vous êtes aussi illustrateur, et on dit volontiers de vous, on peut lire en tout cas volontiers de vous, que vous n'aimez pas choisir entre les deux, vous envisagez les deux.
Alors, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime bien faire les deux. En fait, ouais. Moi, j'ai toujours eu cette double pratique ou d'autres pratiques annexes. Mais voilà, j'ai une formation en effet plutôt de beaux-arts, mais où j'écrivais déjà et où j'ai continué à pratiquer les deux au cours des années suivantes.
Alors, comment est-ce qu'il faut vous imaginer dans cette jungle de cartes, d'affiches, de guides ? À quoi ressemblait une journée typique dans cette jungle, justement, du département cartographique ?
Alors, la journée typique, c'était de circuler dans la ville quasiment vide jusqu'au parc des Bastions, au centre de Genève, où se trouve la bibliothèque de Genève, et de m'immerger toute la journée dans des voyages très lointains et exotiques du Pérou aux îles Moluques, en passant par l'Alaska et en fait en fonctionnant par ricochet. Moi, j'ai exploré des fonds et en ouvrant des tiroirs, puis un autre, et en me laissant guider par les différentes bibliothécaires qui m'ont orienté aussi dans les recherches, les outils de recherche disponibles à la bibliothèque, donc qui concernent non seulement la bibliothèque de Genève, mais aussi toutes les bibliothèques patrimoniales suisses, puis d'autres. Et donc, j'ai exploré non seulement le fond carte et plan, mais aussi le fond des affiches La bibliothèque de Genève collectionne un grand nombre d'affiches. Donc moi, je me suis plongé dans les affiches de tourisme, plutôt du tourisme de la Belle Époque. Et puis après, par ricochet, comme je vous le dis, des ouvrages plutôt de botanique, de géologie, de géographie très générale, et aussi des récits de voyage.
Et alors, il a fallu à la fois consulter toute cette matière, la brasser, la déconstruire et la reconstruire de façon chimérique. C'est assez immense comme travail.
Oui, alors à l'époque, moi j'étais vraiment dans un trou créatif. Je pense que je n'étais pas le seul à avoir été plongé dans cet état pendant la période du Covid, où on ne savait pas, vraiment pas ce qu'il allait advenir de nous, pauvres artistes. Et en fait, cette résidence, moi, elle m'a complètement sauvé. Donc j'ai eu un comportement absolument compulsif pendant le mois de résidence, où j'ai, a posteriori, j'ai comparé ça à un comportement de voleur, en fait, comme si j'étais arrivé dans une maison et que j'avais raflé tout ce que je pouvais dans mon sac pour l'emmener à l'atelier. Donc j'ai photographié des choses, j'ai pris des notes, j'ai redessiné, décalqué des documents, puis noté plein d'autres sources à aller consulter ensuite. Et puis au cours des... quand les choses se sont calmées, et quand je me suis calmé aussi à l'atelier, j'ai pris le temps pendant les quatre, presque cinq années suivantes, de réécrire et redessiner tout ce que j'avais prélevé pendant cette période.
Alors, on a une foule de lieux qui sont rebaptisés, on a des noms dignes des meilleurs albums de Tintin, il y a les îles Souvenance et Limonade, l'île aux fesses, la rivière Mistanipisipu, le fleuve Wabuchagamu, dit aussi le fleuve sans cœur, ou encore on a la baie du couteau de poche, les noms sont tout à fait nombreux. Alors ici, on comprend, l'humour et la fantaisie dominent, il y a quand même des illustrations qu'on reconnaît, dont on reconnaît par exemple des paysages suisses. Donc voilà, la question c'est surtout, est-ce qu'à un moment donné, vous avez une forme de générateur interne de noms imaginaires ?
En fait, théoriquement, on pourrait tout reconnaître, puisque tout est basé sur des documents certifiés authentiques dans nos bibliothèques. Simplement, c'est un survol d'à peu près 300 ans de documents à des périodes où on connaissait de façon plus ou moins précise ou approximative le monde et ses composantes. Et donc... tout ce que je suis allé piocher, c'est aussi comment dire, un goût pour l'étrangeté. Donc des choses qu'on connaît, mais où il y a un certain décalage par rapport à une réalité réelle. Voilà, donc en fait, moi j'ai imaginé aucun nom de lieu. C'est tous des noms de lieux qui existent ou qui ont existé, avec des très légers écarts dans la fiction, dans des lieux imaginaires. Alors je ne suis pas allé piocher dans la Sildavie de Tintin, mais dans d'autres... petits lieux imaginaires comme ça qui me tenaient à cœur parce qu'ils sont convoqués par des auteurs ou des autrices que j'aime et que ça me plaisait de les réinsuffler dans le livre. Mais sinon, c'est tout des noms de lieux que j'ai notés, voilà, soit en parcourant les cartes, soit en parcourant des index d'Atlas, soit en parcourant un outil qui m'a été très précieux qui est le répertoire toponymique du Québec. Et avec tous ces noms de lieux que j'ai croisés, alors soit dans les documents, soit aussi simplement dans mes promenades personnelles, chaque fois que je croisais le nom d'un alpage qui sonnait bien à mes oreilles, et ben je le notais et j'ai constitué une sorte de répertoire dans lequel j'ai ensuite été pioché pour tout redistribuer. Donc tous ces lieux existants ou ayant existé ont été redistribués, mais autrement. Donc par exemple, l'alpage... au Valaisan, que je viens de vous citer, peut très bien désigner une rivière en pleine jungle.
On a le choix en tant que lecteur, justement, on peut se dire, ah, mais tiens, mais est-ce que ce lieu existe réellement ou pas ? Ou bien se dire, ben voilà, je ne le connais pas, il peut peut-être exister ou pas, et juste le lire pour le plaisir du nom, parce que ça dénote aussi, comme vous le dites, une certaine vision du monde appartenant au passé, d'un monde qui n'est pas encore totalement dominé par le tourisme de masse, et dans lequel l'étrangeté et l'inconnu, le mystère, font partie de l'expérience.
Oui, alors au passé, en tout cas, mais même dans mon enfance, moi je me souviens avoir beaucoup lu les atlas en les déchiffrant comme une bande dessinée et en me laissant guider et porter par la musique des noms et l'attirance qu'on peut avoir pour des lieux où on n'ira peut-être jamais, mais qui sonnent en nous, en fait, simplement par justement cette lecture... presque poétique d'un atlas.
Moi, ça m'a rappelé, je ne sais pas si vous connaissez la carte de Tendre de Madeleine de Scudéry et Catherine de Rambouillet qui, au XVIIIe siècle, avait cartographié les états du cœur et des émotions et puis redessiné une sorte de géographie amoureuse.
Oui, alors le livre il s'inscrit complètement dans cette filiation-là, mais il y a énormément d'auteurs, d'autrices, des gens plus sérieux comme des cartographes qui se sont lancés dans ce projet de réimaginer le monde à partir des outils de la cartographie. Moi, je ne fais que m'inscrire dans cette suite-là. Mais c'est vrai que c'est en brassant toutes ces cartes que j'ai obtenu cet atlas touristique, oui.
Alors, on est, vous l'avez dit, pas forcément dans une rigueur scientifique totale. C'est encore une période où la littérature, où une forme de poésie, justement, s'invite beaucoup dans les ouvrages scientifiques et géographiques entre le XVIIIe siècle et peut-être la fin du XIXe siècle. On est aussi dans une perception du monde occidentaux centré avec pas mal de jugements sur les lieux décrits. Alors par exemple, c'est ici rien d'intéressant à voir, ou bien là on peut passer son chemin, ou certains lieux sont décevants, des animaux n'ont rien de spectaculaire.
Oui, alors ça faisait partie des pièges. Il y a de nombreux pièges quand on imagine un atlas et quand on réimagine un monde, parce que évidemment le premier piège dans lequel il faut éviter de tomber, c'est celui de la pensée coloniale. Mm. Parce qu'on se prend à rebaptiser des noms, à relocaliser des choses et à écouter en fait toutes les voix du passé. Et dans ces 300 ans que j'ai explorés, donc c'est des documents qui datent à peu près de 1650 à 1950 sur lesquels je me suis penché. C'est l'âge d'or de la découverte, de l'exploration, et c'est aussi l'âge d'or du tourisme. Donc c'est aussi l'apogée de la colonisation et du pillage des ressources et du paysage. Donc c'est toujours, il y a toujours ce regard-là qu'il faut garder en tête. Mais moi, j'essaie de le prendre, c'est-à-dire de façon le plus joueur possible, c'est-à-dire de montrer aussi à quel point ça a donné des aberrations complètes ou des étrangetés assez grandioses dans les descriptions des endroits quand les gens se sont plantés ou quand les personnes ont décrit des choses de façon complètement erronée. Mais c'est ça qui est le plus séduisant maintenant, c'est de voir à quel point on s'est laissé berner par des illusions, des sortes de mirages de ces pays exotiques.
Alors, Jérémy Gindre, si vous êtes d'accord, vous avez sélectionné un extrait de votre atlas que vous allez nous lire maintenant. De quelle page s'agit-il ?
Alors, je vais vous lire un passage qui décrit un poisson, ou peut-être même d'abord un crabe, comme ça vous pouvez voir l'écart qu'il y a entre justement des descriptions. Dans cet exotisme, on balance toujours entre une sorte d'émerveillement et puis une franche inquiétude par rapport à ces choses découvertes. Donc moi, c'est vraiment toujours sur cette balance-là que j'ai essayé de me situer, donc de rester dans cette découverte du monde, à la fois, comme je le disais, émerveillée et inquiète, voire parfois dégoûtée. Donc on peut avoir des descriptions, par exemple, de choses merveilleuses comme un crabe, très bon et fort gros. Il a une espèce d'habit d'éponge qui couvre sa coque et dans cette éponge, il se forme des coquillages rares et très jolis. Et dans les mêmes eaux de ces îles, on peut trouver un poisson monstrueux qui est décrit ainsi. Un jour, nous aperçûmes par ouatre sur l'eau un poisson fort monstrueux. Nous n'en vîmes d'abord que la tête qui avoit la forme et la figure d'un homme, ayant vers le menton une certaine espèce de barbe qui parois fois comme les ailes de poisson. La tête était un peu longue, allant en pointe, couverte d'écailles. Mais comme nous voulions approcher encore plus près, il fut plongea la tête au fond de l'eau, ce qui fit que nous ne vîmes qu'une partie de fond d'eau, qui étoit écaillée, et il ne parut plus depuis.
Et là, vous avez respecté l'ancienne orthographe où pour le S, on mettait des F.
Alors des choses qui aujourd'hui nous font penser à des F, mais en fait c'était l'orthographe en effet de l'époque. Mais oui, vous pointez en fait un aspect très important pour moi qui était le respect des documents originaux. Alors soit parce que je n'étais pas capable de faire plus, parce que je pense à mes talents limités en dessin qui font que moi j'ai une pratique de copiste en fait avec le dessin. Je suis incapable de fantaisie et d'imagination dans mon trait, donc c'est toujours des dessins qui sont copiés à partir de... Voilà, après, évidemment, je recompose et je mélange et je m'égare, mais il y a toujours un respect de l'original, et dans les textes, pareil, en fait. Je procède de la même manière, je reste fidèle à en fait, ce qui m'a épaté dans la version originale. Donc je reste très proche de l'original, en tout cas j'essaie de le respecter. Et puis après, j'écourte, je rallonge, je prolonge un trait, je change une couleur et je change un mot où je rajoute un point ou une virgule, mais c'est vraiment du travail de montage plutôt que d'imagination.
Mmh. Alors, on ne va pas non plus amenuiser vos talents d'illustrateur, parce qu'il est vraiment très très beau cet atlas. Hein, donc, il est porté par vos dessins, on devine l'aquarelle, des teintes extrêmement lumineuses. Puis ça rappelle beaucoup ces cartes qu'on voyait justement en classe. Quand on s'ennuyait en classe, il y avait toujours ces cartes suspendues, on les a observées pendant des heures et des heures. Quels sont vos matériaux de prédilection pour l'illustration?
Alors là aussi, pour l'illustration, j'ai essayé de rester fidèle aux sources, ou en tout cas celles qui me portaient le plus. C'est-à-dire que dans le fonds cartographique de la bibliothèque de Genève, on trouve pas mal d'originaux qui sont manuscrits, des cartes qui sont faites à la main, où on voit, et c'est très émouvant en fait, on voit encore le tremblement du cartographe qui a tracé à l'encre les lignes, et puis qui les a après coloriées pour donner ensuite à l'imprimeur des indications pour l'impression. Parce que, par exemple, dans les anciens atlas, ils étaient à l'époque imprimés qu'en noir. Et puis après, d'autres personnes venaient ajouter les couleurs les unes après les autres avec une palette assez limitée qui a aussi été la mienne. Moi, je n'ai pas débordé de la palette que m'offrait ma boîte d'aquarelle. Et il y a cette idée de rester dans les mêmes outils qui avaient été utilisés dans les documents dont je me suis servi.
Alors, comment avez-vous fonctionné, hein? Vous parliez de votre fonctionnement un peu de collage, de patchwork. Alors, est-ce qu'on dirait qu'il y a, c'est plutôt l'illustration qui invite le texte ou l'inverse, le texte qui appelle une illustration particulière?
Alors, comme le veut la tradition, je n'ai pas choisi. Donc, je me suis laissé vraiment porter par et les textes et les images de la même manière. J'ai commencé par une grande période où je me suis laissé aller à dessiner et à réécrire tout ce que j'avais prélevé, tout ce qui avait attiré mon attention. Et puis, ça a été prolongé par une autre période où j'ai continué à faire ça, mais en dehors de la bibliothèque de Genève, avec des sources de nouveau par ricochet, soit dans d'autres bibliothèques, soit dans des lieux que j'allais visiter, des musées, des villes, Voilà, il y a un moment où le livre commence à prendre et où tout s'aimante au projet en général. Donc, je suis allé aussi piocher des choses dans ma propre bibliothèque ou dans la bibliothèque d'amis. Et puis, à partir de cette énorme récolte, cette énorme base de données, à un moment, je me suis mis à composer, donc à lier une image avec un texte qui, évidemment, ne l'était pas dans les documents d'origine. Mais c'est là où a commencé, comme je vous disais, le grand, grand travail de montage où j'ai tout déployé dans mon atelier, imprimé tous les textes, découpé chaque paragraphe pour voir à partir de quand est-ce que l'allumette prenait, en fait, entre un texte et une image. Mmh. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'images qui étaient orphelines, plein de textes qui étaient orphelins. Donc, a commencé encore une autre phase éditoriale qui a été de reprendre mes sources ou d'aller en chercher d'autres pour compléter l'ensemble.
C'est vrai que certains textes avec certaines illustrations, notamment à certains endroits des glyphes, semblent totalement n'avoir rien à voir l'un avec l'autre.
Oui, ça c'est une bizarrerie que j'ai cherché à conserver parce que c'est un effet d'étrangeté. Moi j'aime beaucoup en fait dans les livres quand la légende a l'air de soit être une tautologie de ce qu'elle nous montre, soit de tomber complètement à côté de la plaque. Et ces effets d'étrangeté, c'est vraiment quelque chose que je suis allé chercher aussi.
Alors, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux pour en revenir aux couleurs de votre atlas. C'est presque un récif de corail au niveau des couleurs. C'est extrêmement riche. Et il est porté quand même par un jaune presque fluo, très très lumineux, qu'on a déjà pu voir dans des ouvrages art et fiction. Quel est le secret derrière cette couleur qui véritablement semble jaillir des pages?
Alors le secret, c'est de modifier les encres au moment de l'impression. Mais le secret aussi, c'est de travailler avec une très bonne maison d'édition comme Art et Fiction, qui prend soin des images, puisque ce sont toujours des livres d'artistes chez Art et Fiction, et qui fait appel à un photolithographe de talent qui s'appelle Roger Meneghaire, qui a, voilà, à partir des documents que je lui ai fournis, rehaussé encore les images ou amélioré encore les images pour qu'elles soient non seulement respectueuse de mes originaux à l'aquarelle, mais même encore mieux. Puis après, l'autre phase, c'est d'avoir une très bonne imprimerie, qui est la Bona Stampa au Tessin, avec laquelle les éditions Art et Fiction travaillent toujours, à ma connaissance. Et donc, moi, quand je suis allé là-bas, j'ai pu surveiller, en fait, l'impression et puis vérifier que, comment dire, l'audace qu'on avait pris avec l'éditeur et le photolithographe de changer deux encres. Donc, les livres sont imprimés en quatre couleurs, cyan, magenta, jaune, noir. Nous, on a changé le jaune et le magenta. Le jaune pour un pantone fluo et le magenta pour un pantone qui, au départ, était aussi fluo, mais c'était too much. Donc, on est revenu à un rouge un peu plus classique, un peu plus corail, comme vous disiez. Donc, c'est voilà, ces modifications jusqu'au dernier moment du livre qui est donc l'impression qui font que le livre peut avoir cet aspect chatoyant.
Alors, Jérémy Gindre, votre actualité, ce n'est pas que l'atlas touristique des pyramides de la Pampa. Vous avez une autre sortie qu'on peut trouver au rayon nouveautés des librairies, mais au rayon poche. C'est un petit livre paru tout récemment chez Zoé, intitulé Une bonne chose de faite. C'est l'histoire de la fabrication d'un rucher tronc. Un texte qui était paru initialement sous la forme d'un feuilleton dans le temps en 2024, c'est ça ?
Oui, c'est juste.
Oui, c'est ça. Et là, maintenant, il paraît en version poche. Quelle était l'origine de ce feuilleton au temps ?
Alors, l'origine, c'était une nouvelle qui était d'abord dans la première version de Tombola, qui a été écartée ensuite, parce qu'elle n'avait pas sa place ici, et qui a été reprise au moment où le temps m'a proposé d'écrire ce feuilleton. Forme qui convenait mieux à ce récit et que j'ai pu... de fait, développé au cours des 9 épisodes qui sont parus, comme vous le disiez, en épisode dans le magazine du Temps. Et puis, moi, il me tenait à cœur quand même que ce texte existe dans son entier pour les personnes qui auraient raté les épisodes et les personnes qui ne seraient pas abonnées au Temps. Et donc, j'ai proposé aux éditions Zoé de le sortir, mais de le sortir directement en poche, parce que c'était un format qui me semblait beaucoup mieux convenir. Moi, je suis très attaché en fait au format du livre. Je pense que le livre, c'est vraiment un objet et qu'il faut choisir le bon objet pour son contenu. Et heureusement, les éditions Zoé ont été d'accord de publier cet inédit directement en poche et en plus d'y intégrer des images pour les têtes de chapitre.
Est-ce que vous-même, vous pratiquez l'apiculture ?
Alors, je l'ai pratiqué, en fait, curieusement, et c'est peut-être même un des seuls points communs entre les deux livres, c'est que c'est l'apiculture. Moi, je m'y suis mis aussi pendant la période du Covid, où il fallait réinventer ses activités. Et je me suis mis à faire de l'apiculture parce que j'avais toujours mangé beaucoup de miel et que j'ai voulu apprendre comment ça se faisait. Et c'est là que j'ai découvert l'apiculture conventionnelle et aussi d'autres formes d'apiculture, comme celle qui est décrite dans ce récit et voilà, qui me tenait à cœur de développer sous forme de fiction, parce que je trouvais que c'était un terreau particulièrement favorable.
Alors là, ce qui est drôle, c'est que l'apiculture est abordée, bien sûr, ainsi que l'histoire de l'apiculture, mais c'est même plus le prétexte d'un stage de construction de ce rucher tronc et les interactions humaines et les tournures que ça prend qui sont au centre de ce feuilleton et de cette nouvelle, mettant d'une certaine manière, à certains moments, les abeilles au second plan.
Oui, c'est ça. En fait, c'est les participants et les participantes à ce stage d'apiculture forestière ancestrale dans le canton de Glaris qui sont observés comme un apiculteur observe ses abeilles. Et ça donne lieu justement à l'étude de une petite étude comportementale oui. De ce séjour particulier.
C'est vrai qu'il y a une dimension très anthropologique dans ce petit texte. L'atlas touristique des pyramides de la Pampa et une bonne chose de faite sont le fruit d'un travail d'il y a quelques années déjà. Sur quoi travaillez-vous actuellement, Jérémy Gindre ?
Alors actuellement, je travaille sur une exposition qui est la triennale de B. Qui va ouvrir à la fin du mois de mai, le 30 mai, je crois exactement, donc qui durera tout l'été. Grande exposition en plein air dans le parc Silasi, dans les Préalpes vaudoises. Voilà.
D'accord. Un petit peu plus de détails sur quel genre d'œuvre on pourra voir ?
Oui, donc c'est une exposition qui habituellement est plutôt dédiée à la sculpture en plein air. Là, avec une particularité dans cette édition qui est de s'intéresser à d'autres formes que voilà, juste une grosse sculpture posée dans l'herbe. Et moi, j'ai à disposition, par exemple, une cabane dans laquelle je vais faire un musée dédié au bloc erratique.
Ah, magnifique. Donc vous allez construire la cabane autour d'un bloc hérétique?
Non, non, la cabane est déjà construite. C'est une cabane okay. historique de 1880, mais qui va être dédiée à cette grosse sculpture naturelle que sont les blocs erratiques. Ouais. Donc on reste dans la géologie et dans le paysage.
Oui, d'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup Jérémy Gindre d'avoir passé ce moment en notre compagnie. Nous évoquions donc Atlas touristique des pyramides de la Pampa, paru chez Art et Fiction, et Une bonne chose de faite, paru chez Zoé Poche. Rappelez peut-être que vous serez à la bibliothèque de Genève pour un événement prochainement.
Tout à fait. Alors, samedi 25 avril à 15h30, ce sera l'occasion pour le livre de revenir à ses sources, puisqu'on pourra non seulement parler de l'Atlas, mais aussi présenter des documents donc de la bibliothèque du fonds cartographique qui ont servi de modèle.
Et vous serez également visible et lisible au festival BDFIL à Lausanne, qui se tiendra au tout début du mois de mai.
C'est juste.
Merci beaucoup Jérémy Gindre d'avoir été notre invité.